des sujets qui vous interpellent. Voici Jean-Luc Mongrain.
Je le savais que ça arriverait. Je ne souhaitais pas que ça arrive parce que la récupération politique d'une découverte scientifique est, à mon point de vue, déjà une erreur. Vladimir Poutine a annoncé ce matin que la Russie avait développé un premier vaccin contre la COVID-19. Est-ce qu'il est trop tôt pour se réjouir? Je le pense. Est-ce que c'est une instrumentalisation d'une crise mondiale pour se péter les bretelles, comme on dit en bon québécois? Amir Kadir est avec nous. Le docteur Kadir est microbiologiste et infectiologue. Bonjour, docteur Kadir.
Bonjour, M. Mongrain.
Comment avez-vous réagi en voyant cette manchette d'un chef d'État qui s'en va dire « Bon, ma fille l'a essayé, ça fonctionne, on est avancé, même si les tests cliniques ne sont pas terminés, c'est une bonne affaire, c'est nous autres, on l'a. »
Ben, dépeint comme ça, c'est sûr que, comme vous venez de le faire, si on le dépeint comme ça, c'est pas très crédible. Mais je rappelle quand même que c'est pas M. Poutine qui a développé ça tout seul.
Non.
Je le dis parce que je pense que comme planète, on doit se réjouir s'il y a des avancées. Maintenant, est-ce que c'est valide ou pas? Ça dépend d'un certain nombre de choses. Je vois quand même avec amusement que lorsque ça vient des autorités sanitaires ou politiques des pays comme la France ou les États-Unis, à moins que ce soit Trump avec ses simagrées habituelles qui nous fassent douter de quelque chose, mais la plupart du temps, on le prend avec, on le prend avec ouverture, n'est-ce pas?
Ah oui.
Ben, la plupart du temps, oui, quand c'est annoncé...
À moins que ça soit Trump.
Oui, ben, dans le cas de Trump, c'est sûr qu'avec toutes les choses que le personnage dit et qui sont souvent non fondées, on prend quand même ses précautions. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai remarqué avec encore plus de clarté et qui a été même surprenante pour moi au cours de cette pandémie, c'est qu'en Occident, on est quand même pas mal, suffisant en nos moyens. Il y a des raisons parce que les pays occidentaux ont de grands moyens scientifiques et techniques et l'ont prouvé à plusieurs reprises, mais ça ne veut pas dire qu'en Chine, en Russie, en Inde, au Brésil même, il n'y a pas des avancées techniques desquelles on pourrait s'inspirer. Donc, moi, je préfère, disons, la prudence de l'OMS qui ne rejette pas du revers de la main. L'OMS est en lien avec les autorités russes. C'est sûr que les études de qualifications habituelles qui doivent être faites pour n'importe quel vaccin, c'est-à-dire un laboratoire, une université ou un centre national qui est le produit, bien, le soumet à différentes instances internationales, dont l'OMS, toutes les données des différentes phases. Parce que là, d'après ce que je comprends, en Russie, ils sont en train de débuter la phase 3 des études.
Oui.
La même chose a été débutée pour deux vaccins, américain, là, celui de Pfizer et Moderna, d'accord? Moderna a commencé il y a deux semaines, ils ont besoin de recruter 30 000 personnes. Bon, pour le moment, ils en ont recruté à peu près 5 000, ça va donc prendre du temps, etc. Comment est-ce que les Russes peuvent dire qu'en moins de 6 semaines, ils vont démontrer l'efficacité? C'est là que, bon, il y a des questionnements, mais je pense que M. Poutine n'est pas un médecin, donc il peut dire des choses dans l'enthousiasme comme d'autres dirigeants politiques, puis après on apprend qu'il faut être prudent, ça va prendre plus de temps, c'est pas réaliste. Même Pfizer disait que quelque part en octobre, son vaccin sera prêt, mais lorsque moi je consulte les articles scientifiques, puis on regarde ce que les organismes comme le FDA disent, ils appellent à la prudence, ils trouvent irréaliste que quand les études de phase clinique phase 3 vient à peine de commencer, penser qu'en octobre sera prêt, c'est un peu, disons, optimiste. Donc, de la même manière, je vois cet optimisme qui a une saveur politique, bien sûr, parce que Poutine veut se montrer aussi fort et aussi capable que, mettons, Trump, qui promet à sa population de 300 millions la protection offerte par les différents vaccins qui sont en étude, mais lui aussi a besoin de faire les mêmes démonstrations politiques. Donc, de ce point de vue-là, vous avez raison. C'est à saveur très politique, mais ça ne veut pas dire qu'en arrière, il n'y a pas quelque chose de bien et souhaitable qui est en train de se développer.
Je comprends, mais en même temps, on nous prépare peut-être, et je ne veux pas toujours penser à la manipulation, mais on nous prépare peut-être à dire, bon, nous l'aurons en premier, donc vous dépendrez un peu de nous pour la distribution. On va se vacciner en premier, puis on verra pour le restant de la planète.
Non, en fait, là-dessus, je pense que
non.
Si on consulte... Non, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a aucune plateforme de production vaccinale qui peut faire en sorte que rapidement on puisse avoir suffisamment de vaccins pour quelques milliards de personnes. On parle de 7 milliards d'habitants de la planète. Il faudra espérer en vacciner, je ne sais pas, un 50%. Et même les meilleurs, les capacités les plus grandes de production ne peuvent promettre qu'à peu près 40 à 100 millions de vaccins. 40 à 100 millions par rapport à combien? À 5 milliards. On ne peut pas compter sur un vaccin. C'est ça qui est la clé et c'est pour ça qu'il ne faut pas être c'est-à-dire penser que le vaccin c'est un panacée, parce que même une fois développé 2-3 vaccins, ça va prendre un certain temps pour qu'on en ait assez pour tout le monde. On va d'abord devoir vacciner les populations les plus vulnérables, ceux qui ont des problèmes pulmonaires, ceux qui ont des problèmes de maladies chroniques, le personnel de santé, les agents de première ligne. Donc, ça va aller par étapes, ça va prendre du temps. Donc, aussi bien d'avoir non pas un pays, non pas une compagnie pharmaceutique, mais plusieurs pays et peut-être une dizaine de formulations pharmaceutiques différentes qui produisent ces vaccins-là pour qu'en un an, deux ans, une fois que ça sera prêt, je ne sais pas, en 2021, là, une fois que les vaccins seront développés, bien qu'au bout d'un an et un an et demi, on en aura assez pour protéger tout le monde.
Je veux vous amener sur un autre sujet, peut-être qu'on ne vous a pas prévenu, mais c'est votre métier d'être infectiologue. Je sais que vous avez un passé politique également. L'annonce hier faite pour le retour à l'école, en tant qu'infectiologue, est-ce que les mesures sont suffisantes, correctes selon vous, acceptables et on verra bien avec l'usure et l'usage du temps?
Oui, je pense que toute cette série de mesures qui ont été annoncées traduisent quand même quelque chose de bon dans le sens où on sent que le ministre a été à l'écoute des enseignants, des parents. Toute la question, par exemple, de la possibilité pour les parents qui ont des facteurs de risque de ne pas envoyer leur enfant puis de faire des cours à distance. Ensuite, le fait de... Nous, on avait proposé, lorsqu'on avait fait notre conférence de presse au mois de juin, on voulait aller au plus pressant, fait que pour départager entre les plus jeunes qui ont besoin d'un contact visuel avec leur prof, et le reste, on avait dit 12 ans pour dire que bon, on commence au secondaire. Mais tant mieux si on étend la mesure à partir de la 5e et 6e année, là, pour tous les jeunes qui, à un âge où on sait qu'ils sont plus à risque. C'est comme un continuum. Hein. Plus on prend de l'âge, plus les facteurs de risque semblent s'ajouter pour la possibilité de faire des complications puis d'avoir des problèmes. Donc, tant mieux si on étend les mesures de port de masque dans le couloir, partout où...
Les espaces publics ou plus grands.
Exact. Mm-hmm. Parce que d'après ce qu'on comprend, donc dans le cours d'école, ils peuvent l'enlever, ils sont à l'air libre. Dans la classe, pour écouter le prof et pour converser, lorsqu'ils sont assis à leur table et sont à distance, peuvent enlever le masque. Mais lorsqu'ils circulent à l'intérieur de l'école, ils portent le masque, tant mieux. Parce que je pense qu'on ne doit pas se priver de moyens. On est dans une bataille contre la pandémie, on veut en finir le plus vite possible, retrouver nos vies, retrouver nos libertés. Donc, là, en bataille, on ne se prive pas de munitions. Là. On met toutes les mesures de notre côté. Donc, de ce point de vue-là, le ministre, je pense, a fait du bon boulot. Puis, je pense que plus les autorités sont à l'écoute des différentes... du fine-tuning qui va toujours venir du milieu. Hein. Comme pour ce qui est des commerces, ben, la santé publique et le gouvernement prennent une décision. Mais après, on réalise que bon, dans la pratique terrain, il y a des ajustements à faire. C'est bon qu'il y ait une réponse rapide à ça.
Vous faites bien de nous rappeler ça parce qu'on pense que les choses sont là pour rester alors qu'elles sont là pour évoluer, se modeler à la réalité qui nous confronte. Là.
Voilà. Et j'espère qu'on verra la même chose dans la question du port des masques. Je vois que le gouvernement est très timide à mettre les points sur la table. Il veut faire plus de la pédagogie. Moi, je suis d'accord avec la pédagogie, mais il faut quand même que le message du gouvernement soit solide, soit sans atermoiement, sans hésitation, ce soit vraiment bien senti que si on veut s'en sortir, le port du masque semble la clé. On le voit partout, là. En Italie, il y a une recherche qui vient d'être publiée. On se rend compte que l'Italie, qui a connu l'horreur au mois d'avril et de mai, ben là, ils ont des chiffres qui font saliver tout le monde parce qu'ils ont pris le contrôle vraiment dans de très larges mesures. Et qu'est-ce qui a été un des éléments déclencheurs? Ben c'est que les gens se sont rendus compte à quel point ça pouvait être dangereux, donc appliquent les consignes, notamment le port des masques, où l'adhésion au port des masques est très solide en Italie.
Mais est-ce qu'ils ont pris des méthodes coercitives? Parce que j'ai vu notre ministre de la Sécurité publique dire, ben écoutez, on encourage les gens, il faut porter le masque. Bien que le masque soit obligatoire, il n'y a pas de conséquences.
Oui, c'est là qu'il y a peut-être un... Il faut voir comment on ajuste cette question perceptuelle, parce que je crois que vous avez raison, sans pouvoir être certain, je crois qu'en Italie, il y a quand même des conséquences. On impose des amendes aux gens qui ne le portent pas. Donc, je pense moi, je lance l'appel à travers vos ondes. Je pense que comme population, on a juste à adhérer puis éviter qu'on en soit rendu là. On a une responsabilité collective. Et donc, chacun d'entre nous, on peut participer à cette bataille-là de toutes sortes de manières, mais le masque est un de nos meilleurs outils.
Merci beaucoup, Dr. Amir Kadir. Merci bien.
Au revoir.
Bonne continuation dans vos responsabilités comme microbiologiste et infectiologue. On s'arrête pour une pause.